broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour.
Cédric Langevin, bonsoir.
Bonsoir Yann, bonsoir à tous.
Vous êtes avec nous pour le journal complet, on démarre avec les titres.
Stupeur à Trou-de-Douce, une fillette de 14 mois meurt étranglée par son beau-père, un homme de 29 ans qui a été arrêté. L'affaire des découvertes macabres à Mardalbert devient de plus en plus complexe. La police à la recherche de deux femmes qui seraient portées disparues et qui auraient été en contact avec Oumia Debrahim. Le présumé suspect a fait face à un panel de psychiatres qui devront déterminer son état mental. Covid-19, le vaccin sera-t-il rendu obligatoire pour les employés des hôpitaux et des écoles? Une regulation en circulation provoque une énorme controverse. La question sera abordée dans l'émission Zoom Extra cet après-midi. Mavin Beaton reçoit le docteur Vincent Gadjedar. Trafic de drogue saisi de 57 millions de roupies d'héroïne à l'aéroport. Et messages et vidéos offensants, Fardin Okib plaide coupable. Il prendra connaissance de sa sentence ce vendredi. Et puis le Pérou a le plus haut taux mondial de décès avec 5484 décès par million d'habitants. Le village de Trou-de-Douce dans la stupeur ce matin. Un nourrisson de 14 mois a rendu l'âme après avoir été étranglé par son beau-père. C'est vers 2h du matin que la mère a débarqué au poste de police avec son bébé dans les bras. Elle a dit aux policiers que l'enfant, une fille, ne respirait plus. Les policiers ont immédiatement transporté le nourrisson à l'hôpital Bruno Chang à Flac. Sur place, le personnel de santé n'a pu que constater son décès. Le beau-père, âgé de 29 ans, a été arrêté. Il est rapidement passé aux aveux et aux enquêteurs. Il a indiqué qu'il a étranglé le bébé parce qu'il pleurait trop. Il sera traduit devant la justice demain. Elles sont portées manquantes. La police à la recherche de deux femmes qui auraient été en contact avec Oumia Debrahim. Les limiers de la Major Crime Investigation Team sont persuadés que le cœur-pipien de 37 ans a enterré d'autres corps à Mardalbert. S'agit-il de deux femmes portées manquantes? C'est ce qu'ils tentent d'établir, d'autant que certains détails font penser au cas de Zahira Rampet et Emma Kounjoubiari. Les deux femmes portées manquantes ont-elles aussi été en contact avec Oumia Debrahim via Facebook. Ainsi, une grande battue a été effectuée sur le verger ce matin. Les policiers étaient même munis d'appareils infrarouges afin de détecter toute trace de sang. Et un téléphone portable retrouvé par le GIPM dans la rivière Lachaud. C'est à 14h cet après-midi que les plongeurs ont récupéré cet appareil de la marque Samsung A51. Notons qu'Oumia Debrahim avait déclaré avoir jeté deux téléphones portables du haut du pont Cavendish à Maybourg. Arissa Pirali, la voix de Namrata Dilchan.
Le téléphone portable sera analysé afin de déterminer son propriétaire. Les enquêteurs vont aussi tenter de récupérer le contenu. Rappelons qu'une grande battue a été effectuée ce matin aux alentours du verger où les corps de Zahira Rampet et de Emma Kounjoubiari ont été déterrés. Les policiers étaient munis d'appareils infrarouges afin de détecter toute trace de sang. La police pense que d'autres cadavres pourraient être enterrés à cet endroit après que des effets personnels féminins, notamment une paire de sandalettes et un téléphone portable, aient été retrouvés sur les lieux. La MCIT, de concert avec la direction de la Central Investigation Division, est en possession d'une liste de toutes les femmes portées disparues, surtout celles âgées entre 30 et 40 ans. Il nous revient que des amis d'Oumia Debrahim sur les réseaux sociaux ainsi que des proches des défunts ont été conviés au siège de la MCIT hier. Notons que c'est à travers Facebook qu'Oumia Debrahim a fait la connaissance des deux victimes. Il a avoué aux enquêteurs de la MCIT avoir tué Emma Kounjoubiari en l'étouffant, mais soutient que Zahira Rampet se serait suicidée. Les enquêteurs attendent le feu vert des médecins de l'hôpital Brown Sequard, où il est actuellement admis, avant de le présenter devant la justice.
Nouveau règlement sous la Quarantine Act. Le vaccin devient directement obligatoire pour les employés, les institutions de santé et les établissements scolaires. Il devrait entrer en vigueur le 14 juin. Ces règlements concernent uniquement les employés des institutions de santé, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi que ceux des écoles. Les patients et les élèves ne sont donc pas concernés. Arissa Pirali, Douchina Pigadou.
Officiellement, la vaccination contre la Covid-19 reste optionnelle. Toutefois, elle devient indirectement obligatoire pour toutes les catégories d'employés des institutions de santé et scolaires, qu'elles soient privées ou publiques. Ces derniers ne pourront travailler s'ils ne présentent pas un carnet de vaccination ou un résultat de test PCR négatif effectué il y a moins de 7 jours. Les établissements concernés sont les crèches, les garderies, les établissements allant du préscolaire au tertiaire, les centres de formation, les institutions vocationnelles, mais aussi les hôpitaux, médicliniques et dispensaires. Il y a cependant une dérogation pour les personnes qui ne peuvent, pour des raisons médicales, être vaccinées. Mais ces personnes doivent présenter un certificat émis par un médecin de l'État. À noter que les patients et les élèves ne sont pas concernés par ces règlements. Toute personne qui enfreint ces règlements ou qui se rend complice d'une infraction est passible d'une amende maximale de 500 000 roupies et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 5 ans.
Rajan Narsingan, qui enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Maurice, estime que ces règlements sont anticonstitutionnels et discriminatoires et d'ajouter que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner pourront se retrouver sans emploi et le vaccin, selon lui, devrait rester optionnel.
C'est vraiment mauvais trouver qu'il y ait un vaccin, façon de faire indirectement, il devient obligatoire. Et là, le gros danger, c'est qu'il y a certains travailleurs, s'ils n'ont pas envie de faire vaccin pour une bonne raison personnelle, de santé, de conscience, de religion, ils ont la bonne comorbidité, donc ça va nous là risquer à perdre le travail. Donc c'est quelque chose de très très grave, sans passe par le Parlement, et même s'il passe par le Parlement, vous pensez, il peut y avoir un gros risque à l'encontre de la Constitution, et parce qu'il peut créer une situation de discrimination. À l'encontre de l'Equal Opportunities Act et dans les autres dispositions de la Constitution. À mon pensée, il y a une situation alarmante. On n'a rien contre du monde de vaccin. Il y a des affaires optionnelles.
Le professeur Narsingan estime qu'il faut consulter la population avant de prendre de telles décisions, d'autant que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus.
On pensait la balle du peuple, il est bien important. Et pour pas capable de passer la loi, et quelques membres de l'exécutif, c'était la majorité relative, je pas capable de passer la loi draconienne, drastique comme ça. Mais il est presque sûr qu'il y a beaucoup d'employés du secteur privé pour faire ligne. Après, il n'y a aucune logique, parce que nous pouvons trouver qu'il y a un vaccin là. Il est dans ce côté positif, bon, pas dire le contraire, mais un individu qui a un vaccin, il n'est pas bon pour et s'il est asymptomatique, transmettre le virus à d'autres personnes. Donc, du monde qui fait un vaccin là, bien bon pour lui, mais du monde qui fait un vaccin, on n'est pas capable de faire une discrimination, on peut se lier accès à ce place of work.
Trois cas de Covid-19 répertoriés lors de la soirée d'hier. Un cas a été détecté suite aux exercices de contact tracing en cours. Il s'agit d'un habitant de Bambou. Le deuxième suite à un test de routine. Le patient habitant Plaine des Papayes y avait été en contact avec un patient positif. Le troisième cas a été détecté suite à un exercice à un test plutôt effectué dans une clinique privée. Le test de cet habitant de Vakwa a été confirmé par CHL. 8 décès ont été attribués à la Covid-19, dont un cas importé, indique le communiqué du ministère de la Santé ce matin. 604 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Et le point de presse du National Communication Committee se tiendra à 17h30. Il sera animé par le Premier ministre adjoint Stephen Obigadou et la ministre de l'Égalité des Genres, Kalpana Kunjusha. Vous pourrez suivre le press briefing du jour en direct sur Top FM et sur notre page Facebook Top FM Mauritius. Et Mervyn Beaton reçoit le docteur Vasantra Ougadjedar dans l'émission Zoom Extra. La grosse controverse sur la possibilité que le vaccin serait rendu obligatoire pour les personnels de l'éducation et la santé sera évoquée, de même que la situation sanitaire actuelle. Rendez-vous à partir de 17h30, vos appels au 213-77-77, donc l'émission Zoom Extra que vous allez pouvoir suivre après le point de presse du National Communication Committee. Et la campagne de vaccination anti-grippe a démarré hier et se poursuit jusqu'à samedi. Ils sont éligibles les enfants de 6 mois à 5 ans, les personnes atteintes de diverses pathologies et les femmes enceintes et les membres du personnel de la santé. Ces personnes peuvent se faire vacciner dans les différents hôpitaux et centres communautaires à travers l'île. Le programme de vaccination dans les hôpitaux régionaux se tient du lundi au vendredi de 9h à 11h45, puis de 13h à 15h, et les samedis, c'est de 9h à 11h. Quant aux Area Health Centers, Community Health Centers et Mediclinic, entre autres, la vaccination anti-grippe se fera de 13h à 15h ce mercredi 2 juin dans les endroits suivants. Dr. Kenham Area Health Center à Saint-Pierre, la Mediclinic Lady Sushil Ramgulam à Flac et le Tayac Area Health Center à Rivière-des-Anguilles. À noter que tous les Area Health Centers, Community Health Centers et Mediclinic seront ouverts ce samedi de 9 à 11 heures pour la vaccination anti-grippe. Chacun a sa responsabilité. Le Parlement vote la loi et le judiciaire l'applique. Des propos signés Satyajit Boulel dans la dernière e-newsletter du bureau du DPP. Dans une interview accordée aux magistrats Razia Janu John Bokus et Meenakshi Gayan Jolim Singh, le directeur des poursuites publiques s'est attardé sur la section 1 de la Constitution. Maître Boulel explique qu'il est très important de respecter le concept de séparation de pouvoir. Il ajoute que selon la Constitution, chacun a sa responsabilité. Si le Parlement vote la loi, souligne le DPP, le judiciaire a le devoir de l'appliquer. Il évoque toutefois un cas où, selon lui, il y a une tentative d'usurper le rôle du judiciaire. Il revient ainsi sur la décision de la Cour suprême dans le litige Mahbub contre un étranger en 1982. Alors que la Cour avait donné gain de cause aux Mauriciens, le Parlement avait alors passé une loi pour renverser cette décision. Sir Maurice Roux, alors chef juge, avait invalidé cette loi.
Le cas de Mahbub Kotina, un litige entre un citoyen mauricien avec un étranger, l'eau, une portion de terrain. La Cour décidait que le terrain appartient au citoyen mauricien. Le Parlement passe la loi spécifique en relation avec ce jugement-là pour dire que non, c'est l'étranger qui est là. Comment dire, l'autorité, la Cour, fin dilué complètement. Et nous, la Cour suprême, réagir dans les mots du juge Roy à l'époque, de dire que it was a fundamental rule of the Constitution that there should be a separation of powers between the executive, the legislature and the judiciary. Après, il vient dire que Parliament had no more right to pronounce judgments than the court had a right to make laws. Chacun sa responsabilité. The action taken by Parliament devoid of any general import and interfering in a private dispute between two parties was not a law, but the usurpation of judicial powers and therefore null and void.
Des avocats prêtent serment en tant que temporary district magistrate. La cérémonie a eu lieu devant le chef juge Ashraf Konaï en cour suprême cet après-midi. Ils prennent leur nouvelle fonction à partir d'aujourd'hui. Les temporary district magistrates qui seront déployés dans les diverses cours de district recevront un cours d'initiation. Ils sont Devinash Ouzagir, Arshad Turbut, Denis Jonathan Velian, le Kishni Bismohan, Marie-Axel Tania Huet, Yovani Hanshila, Goinden Stephen, Bibi Aznabhola, Marie-Valentine Meyer, Ibrahim Iklas Diljor et Amira Denou. Enquête de l'ICAC sur la famille Gerobi. Interpellation de Komal Annan Ramdou ce matin. Ce dernier est responsable d'une agence de voyage, Tree Ocean Tours, à Pointe-aux-Canonniers. Komal Annan Ramdou est considéré comme un maillon important dans la gestion du patrimoine des Gerobi. Après son interpellation par les enquêteurs de la commission anticorruption, une perquisition a été faite au domicile de Komal Annan Ramdou. Les enquêteurs ont saisi un ordinateur et deux téléphones mobiles, ainsi que des documents relatifs à ses transactions avec les membres de la famille Gerobi. à l'aéroport, saisi de 57 millions de roupies d'héroïne. C'est un joli coup de filet réalisé hier par les officiers de la Customs Anti-Narcotic Section de la MRA. La drogue était dissimulée dans un colis qui contenait aussi des pièces de rechange pour navires. Ce sont les autorités sud-africaines qui ont donné l'alerte. 3,8 kilos d'héroïne d'une valeur marchande de 56 940 000 roupies ont été découvertes. Cela grâce à la contribution du chien renifleur Milan. L'affaire a été référée à la brigade antidrogue. Et messages et vidéos offensants. Fardinoki plaide coupable. Cet habitant de Petit Raffray était poursuivi pour infraction aux dispositions de l'Information and Communication Technologies Act. Il lui est reproché d'avoir proféré des menaces à l'égard de Tiania Permes, la veuve de Jean-Kaël Permes, dans un post sur sa page Facebook ainsi que dans une vidéo. Le délit avait été commis le 11 juin 2020. Fajdinoki a plaidé coupable en cour intermédiaire devant la magistrate Dadouki Ramberen. Depuis le box des accusés, Fajdinoki a présenté ses excuses à la famille Permes, indiquant qu'il avait agi sous l'influence de l'alcool. Fajdinoki prendra connaissance de sa sentence le 4 juin prochain. Il avait accusé son fils de violence, le décès d'un sexagénaire traité comme un homicide. L'enquête policière a pris une nouvelle tournure après qu'il a été établi que cet homme âgé de 68 ans était fréquemment victime de violences. Dans une plainte à la police, le sexagénaire avait accusé son fils de 43 ans d'agression le 21 mai. Tous deux vivaient sous le même toit, Morcellement-Saint-André, et dans sa plainte, il avait déclaré que son fils l'avait agressé à l'aide d'une bêche. Le vieil homme s'était fait examiner par un médecin et avait obtenu une attestation. Le 25 mai, il avait obtenu un ordre de protection intérimaire du tribunal de Pamplemousse. Le 27 mai, sa petite fille avait rapporté sa disparition au poste de police de Plaine des Papayes. Retrouvé par la police, le vieil homme a été transporté à l'hôpital. Il est décédé dans la soirée d'hier. Une autopsie a été pratiquée pour déterminer les causes exactes de son décès. Nous passons au rappel des titres. Super à Trou-de-Douce, une fillette de 14 mois meurt étranglée par son beau-père, un homme de 29 ans qui a été arrêté. L'affaire des découvertes macabres à Mardalbert devient de plus en plus complexe. La police à la recherche de deux femmes qui seraient portées disparues et qui auraient été en contact avec Oumiad Ebrahim. Le présumé suspect a fait face à un panel de psychiatres qui devront déterminer son état mental. Covid-19, le vaccin sera-t-il rendu obligatoire pour les employés des hôpitaux et des écoles ? Une regulation en circulation provoque une énorme controverse. Et la question sera abordée dans l'émission Zoom Extra. Mavin Beaton reçoit le docteur Vasantra Ougadjadar. Trafic de drogue saisi de 57 millions de roupies d'héroïne à l'aéroport. Et messages et vidéos offensants. Fardinoki plaide coupable. Il prendra connaissance de sa sentence ce vendredi. Et puis le Pérou a le plus haut taux mondial de décès avec 5484 décès par million d'habitants. Merci d'avoir été des nôtres.
L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence.
Give us 3 minutes and we'll give you the world.
L'Union européenne, la Grande-Bretagne et le Japon ont maintenu leurs réserves sur une levée éventuelle des brevets concernant les vaccins anti-Covid devant l'OMC, a indiqué ce lundi un responsable du commerce international basé à Genève. Des propositions visant à débuter des discussions basées sur des textes précis devant permettre un renoncement aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre la Covid-19 ont bien été accueillies lors d'une réunion informelle de l'Organisation mondiale du commerce. commerce, consacré au volet commercial des droits sur la propriété intellectuelle. Mais plusieurs États membres ont continué à exprimer leurs doutes sur l'opportunité de démarrer des négociations et ont demandé plus de temps pour analyser les propositions allant dans ce sens, a précisé ce responsable. Ces pays sont ceux de l'Union européenne ainsi que l'Australie, le Japon, la Norvège, Singapour, la Corée du Sud, la Suisse et Taïwan. Les accords au sein de l'OMC doivent recevoir le soutien par consensus de tous les 164 États membres. Une décennie de guerre en Syrie a fait près d'un demi-million de morts, a annoncé ce mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un nouveau bilan incluant plus de 100 000 victimes dont le décès vient d'être confirmé par l'ONG. Le conflit a été déclenché en 2011. Avec la répression de manifestations pro-démocratie par Damas et a impliqué de multiples acteurs régionaux et grandes puissances jetant sur les routes de l'exil des millions de personnes. L'intensité des combats a diminué dès 2020, principalement en raison d'un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie dont bénéficie Idlib, le dernier grand bastion djihadiste et rebelle, et de la pandémie de nouveau coronavirus contre laquelle se sont concentrés les efforts. L'ancien président de la Côte d'Ivoire prévoit de faire son retour dans le pays le 17 juin, a annoncé le secrétaire général du Front populaire ivoirien. Depuis son acquittement de crimes contre l'humanité par la CPI, l'arrivée de Laurent Gbagbo est attendu avec impatience par ses partisans. Depuis son acquittement en mars de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, ce retour de l'ex-président ivoirien a été attendu avec de plus en plus d'impatience par ses habitants. Assoua Adou a fait cette annonce lors d'une cérémonie tenue le jour des 76 ans de Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945. Début avril, le président Alassane Ouattara avait lui-même donné son feu vert au retour de son principal rival à la présidentielle de 2010. Sa victoire avait été alors contestée par Laurent Gbagbo. La crise post-électorale avait provoqué une crise violente qui a fait quelque 3000 morts. Arrêté en avril 2011 à Abidjan, Laurent Gbagbo avait dans un premier temps été détenu dans le nord de la Côte d'Ivoire avant d'être transféré dans une cellule de la Cour pénale internationale qu'il a finalement acquitté au terme d'une longue procédure judiciaire. Depuis son acquittement, Laurent Gbagbo vivait à Bruxelles, d'où il avait annoncé à plusieurs reprises son intention de rentrer bientôt. Ce retour est un signe fort de la décrépitation de la vie politique ivoirienne depuis les dernières législatives de mars qui se sont déroulées dans le calme et auxquelles avaient décidé de participer les grands partis d'opposition, dont le FPI, qui boycottait tous les scrutins depuis 10 ans. Et je vous le disais, le Pérou a réévalué lundi sur les recommandations d'experts sur le nombre de personnes mortes de la Covid-19, passant de 69 000 à 180 000, avec 5 484 décès par million d'habitants. Le pays est désormais le pays au monde avec le plus grand nombre de décès par million d'habitants, selon le classement établi par l'AFP sur des bases officielles. Jusque-là, la Hongrie était le pays le plus touché en proportion de sa population, avec 3 077 décès par million d'habitants, selon le décompte de l'AFP. C'est la fin de cette page inter. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre en direct sur les ondes de Top FM et sur notre page Facebook Top FM Mauritius le press briefing du National Communication Committee, et ensuite Mavin Beaton dans l'émission Zoom Extra qui reçoit le docteur Vincent Traou-Gadjedar.